Radio Prague, les informations. Bonjour, le Premier ministre Jan Fischer a achevé sa visite de 2 jours en France. Ouverture à Ostrava du procès de 4 extrémistes accusés de tentative de meurtre raciste contre une famille rome. Enfin, musique, ouverture ce mercredi du 65e festival, le Printemps de Prague. Comme annoncé en titre, le Premier ministre Jan Fischer a donc achevé ce mardi une visite de 2 jours en France. Il a notamment été reçu par son homologue français François Fillon ainsi que par la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi Christine Lagarde. Il s'agissait de la première rencontre entre les chefs de gouvernement des deux pays depuis la fin de la présidence tchèque de l'Union européenne en juin 2009, le renforcement de la coopération politique et économique ainsi que les questions européennes d'actualité ont été les principaux thèmes abordés par Jan Fischer et François Fillon. Et puis dans le cadre de son passage en France, Jan Fischer est intervenu à l'Institut des hautes études de défense nationale à Paris lundi soir sur le thème « Réalités européennes vues de Prague ». La situation autour de la crise financière en Grèce conduira à une attitude plus prudente vis-à-vis de l'admission de nouveaux membres dans la zone euro, a notamment indiqué le Premier ministre. Selon lui, outre les critères de Maastricht, de nouvelles conditions pourraient être réétablies pour les pays candidats potentiels à l'adoption de la monnaie européenne. Lors de sa conférence, Jan Fischer a également déclaré que la crise grecque avait influencé le débat en République tchèque sur l'adoption de l'euro, en précisant que le camp de ceux qui ont des problèmes de longue durée avec l'adoption de l'euro avait été renforcé. Le procès de 4 extrémistes de droite accusés de tentative de meurtre raciste a été ouvert mardi au tribunal régional d'Ostrava en Moravie du Nord sous haute surveillance policière. 4 hommes d'environ 25 ans sont les auteurs de l'incendie d'une maison habitée par une famille rome à Vidkov. En avril 2009, l'incendie avait causé de très graves blessures à une petite fille âgée de 2 ans. Les 4 inculpés encourent des peines allant de 12 à 15 ans de prison, voire une peine exceptionnelle plus longue. Le verdict de ce procès devrait être prononcé vers la mi-juin. Plus de détails dans quelques instants dans nos faits et événements. La 65e édition du Festival international de musique classique, le Printemps de Prague, sera inaugurée ce mercredi 12 mai. La tradition veut que ce soit le jour de la mort du compositeur Bedřich Smetana et que le premier concert soit consacré à son cycle de poèmes symphoniques « Ma patrie ». Cette année, l'œuvre sera interprétée par la Philharmonie de Chambre de Prague. Le festival fermera ses portes le 4 juin. On passe au sport, en football. L'ancien Lensois et Bordelais Vladimir Schmitzer organise un match de bienfaisance ce mardi soir à Prague dans le stade du Slavia de Prague, le club de ses débuts professionnels, à l'occasion de la fin de sa carrière de joueur pour se jubiler. L'ancien international tchèque, aujourd'hui âgé de 36 ans, a invité d'anciens joueurs du Slavia et du Sparta de Prague et notamment tous ceux qui ont été sacrés vice-champions d'Europe avec la République tchèque en 1996. On termine avec un mot de météo. C'est un temps largement voilé avec des averses passagères qui continuent de régner sur la majeure partie du territoire ce mercredi, jour de la fête des Pancrats. Les températures sont stables et varient entre 16 et 19 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention.
Faits et événements en République tchèque. Alena Gebertova.
Un procès pas comme les autres a commencé à Ostrava. Il a pour protagoniste 4 jeunes extrémistes ayant gravement brûlé une petite fille rome avec des cocktails Molotov. Ce sera le premier sujet que nous développerons dans ce tour d'horizon de l'actualité tchèque. Nous vous emmènerons à l'opéra et vous proposons l'interview avec l'auteur de la musique du film « Le fabuleux destin d'Amélie Poulain » qui s'est produit à Prague dans le Panorama, notre rubrique régulière de mardi. Nous reviendrons sur le cas Milan Kundera. Le procès de 4 extrémistes de droite, auteurs présumés d'un incendie criminel contre une famille rome, dont une fille de 2 ans a été brûlée sur 80% du corps, a commencé ce mardi devant le tribunal régional d'Ostrava sous haute surveillance policière. Inculpés de meurtre à motivation raciste, les hommes, âgés d'environ 25 ans, encourent des peines allant de 12 à 15 ans de prison, éventuellement des condamnations à vie. Yarka Gisublova.
Lors d'un incendie criminel commis la nuit du 18 au 19 avril 2009 dans la commune de Vitkov, trois membres d'une famille rom ont été blessés et la petite Natalka, âgée de 2 ans, a subi des brûlures au deuxième et troisième degré sur plus de 80% de son corps. Des cocktails Molotov lancés sur la maison étaient à l'origine de cet incendie. Les quatre extrémistes sont inculpés de meurtre à motivation raciste. Trois d'entre eux ont avoué, mais ils continuent de rejeter la responsabilité de l'acte l'un sur l'autre. Les résultats de l'enquête menée par une équipe de détectives du département de lutte contre le crime organisé ont démontré que Jaromír Lukeš était l'instigateur d'une attaque devant attirer l'attention de la scène néo-nazie à la veille du 120e anniversaire de la naissance d'Adolf Hitler. Václav Tsojotsaru devait confectionner les trois bouteilles de cocktail Molotov, lancées ensuite par lui et 2 autres complices, Ivo Müller et David Vaculík. La défense des hommes inculpés est basée sur le fait qu'ils ignoraient qu'il y avait des personnes à l'intérieur de la maison au moment de l'attaque. Ladislav Mišák, avocat de Tsojotsaru.
Václav Tsojotsaru n'a jamais contesté avoir lancé des bouteilles sur la maison. En ce qui concerne les effets, il dit avoir été surpris par les conséquences que cela avait provoquées, et pas seulement lui, mais aussi les autres.
Pour Brigitta Bilíková, procureure du parquet régional d'Ostrava, le rôle joué par les quatre est assez clair.
Les preuves réunies, la reconstitution de l'attaque et les dépositions des inculpés permettent de déduire assez univoquement quel était le rôle de chacun d'entre eux.
Anna Sivákova est aussi blessée dans l'attaque et la mère de la petite Natalka, qui a subi et devra subir encore des dizaines d'interventions et dont la survie est qualifiée de miracle par les médecins.
Je souhaiterais qu'il soit puni d'après les actes commis, que la justice soit rendue, car ma fille en souffrira toute sa vie tant qu'elle restera en vie.
L'intérêt du public et des médias pour le procès exceptionnel. Le drame de la petite Natalka est retransmis hors les frontières du pays par la chaîne de télévision américaine CNN. Pour son producteur Andrew Tkach, il faut montrer les souffrances de la victime innocente de cet acte, ainsi que son contexte social plus large. Le procès doit durer jusqu'à la fin du mois de juin, où le verdict devrait être prononcé.
Idoménéa, opéra du jeune Mozart, est revenu sur la scène du Théâtre National de Prague. Ce n'est que pour la 2e fois que cet opéra figure dans le répertoire de ce théâtre. La première du 6 mai dernier était très attendue, notamment en raison d'une excellente distribution internationale et aussi de la personnalité du metteur en scène japonais Yoshi Oida. Vasa Frichter.
Le roi de Crète Idoménée, qui revient dans sa patrie après la guerre de Troie, faille périr dans une tempête. Au comble de désespoir, il promet à Poséidon d'Olvide sacrifier la première personne qu'il rencontrera après son retour. Il ne sait pas que, par la cruelle ironie du sort, le premier homme qu'il verra après son débarquement sera le prince Idamante, son fils. C'est ce conflit entre l'amour paternel et le devoir, conflit digne d'une grande tragédie antique, qui a permis à Mozart de déployer son génie lyrique. Le chef d'orchestre Tomáš Netopil a préparé au cours de cette saison 2 productions de cet opéra, à Turin et à Prague.
Je ne peux pas être tout à fait d'accord quand j'entends qu'il s'agit d'un opéra de jeunesse. J'y vois un des sommets de l'art de Mozart. Nous savons qu'il avait déjà 25 ans. L'ensemble pour lequel il a créé cet opéra se classait parmi les meilleurs en Europe et donc dans le monde. Mozart pouvait donc donner libre cours à sa passion créatrice au niveau de la composition et des effets sonores. Il était également influencé par les productions de Christophe Willibald Gluck à Paris.
Le metteur en scène de cette production, Yoshio Ida, n'est pas un inconnu du public pragois. Il avait déjà subjugué les spectateurs de l'opéra d'État avec l'opéra Mort à Venise de Benjamin Britten. Les moyens scéniques qu'il utilise dans Idomeneo sont sobres et dépouillés. Tomáš Netopil apprécie que sa mise en scène serve avant tout la musique de Mozart.
C'est le type de metteur en scène qui laisse un grand espace à la musique. Je crois que dans ce cas, dans le cas d'Idomeneo, c'est ce qu'il faut, parce que la musique elle-même dit énormément de choses et lui, par sa méthode et sa sensibilité, réussit à apporter beaucoup à cette histoire.
Le Théâtre National a réussi à réunir pour cette production une distribution de qualité. Le ténor américain Charles Workman a donné au personnage d'Idomeneo une voix légère et souple qui ne manquait pourtant pas d'accent viril. Le rôle de la princesse de Troie, Ilia, a été pour la chanteuse Martina Yankova l'occasion de revenir après 18 ans d'absence sur les planches du Théâtre National. La chanteuse, qui est membre de l'opéra de Zurich, a été d'abord prise au dépourvu par la méthode de Yoshio Ida, donnant aux chanteurs une grande liberté pour leur permettre de s'identifier psychologiquement avec leur personnage. Puis, elle a mobilisé ses ressources intérieures.
Ce rôle est nouveau pour moi, il a atteint les racines de mon être. J'aimais cela déjà quand j'étais petite fille. J'ai grandi avec les épopées d'Homère, avec l'Odyssée et l'Iliade.
La première d'Idomeneo au Théâtre des États, une des scènes du Théâtre National de Prague, le 6 mai dernier, a été très applaudie. Les critiques, eux, se montrent plus réservés, sans nier que cette nouvelle production enrichit considérablement le répertoire de la première scène lyrique tchèque.
Impossible de ne pas connaître les mélodies qui ont rendu célèbre le compositeur français Jan Tiersen lorsqu'il a réalisé la bande originale du film de Jean-Pierre Jeunet, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Il a d'ailleurs enchaîné aussitôt avec la bande originale d'un autre succès du box-office, Goodbye Lénine. Pourtant, ne lui parlez surtout pas d'Amélie. Oubliez Amélie, crie-t-il même sur tous les toits. Jan Tiersen se produisait au Divadlo Archa de Prague ce lundi 10 mai dans le cadre d'une tournée annonçant son nouvel album qui sortira à l'automne prochain, Das Lane. Il a répondu aux questions d'un clair veluire.
Jan Tiersen, merci. Vous êtes ici à Prague dans le cadre d'une pré-tournée pour un album qui va sortir à l'automne prochain. La tournée et l'album s'appellera Das Lane. Est-ce que vous pouvez nous traduire et puis nous expliquer un peu ce qu'il y a dans cet album?
Das Lane, en fait, c'est un terme d'astronomie. Enfin, mais j'ai découvert après, en fait. Parce que l'idée, c'était plus la poussière et tout ça. qui est des poussières d'étoiles derrière une galaxie, en fait, si je ne me trompe pas.
Alors, c'est un album qui s'annonce résolument plus rock que les derniers albums que vous avez fait précédemment, ouais. On va le dire.
Non, c'est un album où il y a vachement de contraste, mais au sein même d'une chanson, en fait. Il n'y a que 8 morceaux et ils sont assez longs et il y a pas mal d'atmosphères différentes au sein même d'un morceau, quoi.
Alors, je sais que vous avez travaillé avec Bertrand Cantat, avec les Têtes Raides, avec certains groupes de rock français. Je vais vous demander d'une façon générale, qu'est-ce qui vous inspire ou quelles sont vos influences?
Je sais pas, c'est vachement dur de parler d'influence. J'écoute vachement de musique, en fait. C'est plus subconscient, je pense, des influences.
Vous aviez un groupe de rock quand vous étiez jeune. Est-ce que c'est un peu une sorte de retour aux sources de faire quelque chose de plus électrique?
Non. C'est pas un retour aux sources, au contraire. C'est juste, quand j'ai commencé la musique, ouais, c'était au sein d'un groupe et... on avait plus tendance à, là pour le coup, à être très influencé par ce qu'on écoutait. Après, le groupe s'est dissous et moi j'ai commencé à travailler tout seul. Je travaillais vachement avec des samples. C'était le début du sampler. Et ça m'a amené à réutiliser des instruments acoustiques, en fait, qui m'apportaient de la fraîcheur, en fait. Parce que c'était assez éloigné de ma culture, de ce que j'écoutais. Et puis après, le processus s'inverse, quoi. C'est au fil du temps. Voilà, je peux plus faire que des choses qu'acoustiques parce que ça m'intéresse pas trop, en fait. Enfin, j'ai pas fait le tour, parce qu'on fait jamais le tour, mais pour avancer, j'ai besoin d'autre chose, quoi.
Vous êtes aussi connu comme multi-instrumentiste, vous jouez beaucoup d'instruments de musique et en même temps sur scène, je crois qu'il y a beaucoup de musiciens avec vous. Alors qu'est-ce qui vous apporte?
Pour l'album, moi j'ai travaillé quasi tout seul, à part pour les voix, oui. C'est un album où il y a beaucoup de chœurs, en fait. Il n'y a aucun morceau instrumental, mais c'est pas non plus des chansons classiques, quoi. Et il y a notre batteur, Dave Collingwood, qui joue sur tous les morceaux, par contre. C'est un peu le seule intervention musicale extérieure. Et je trouve que la tournée, c'est tout l'inverse, en fait. C'est un travail de groupe et justement, on reprend les morceaux et on se les réapproprie tous ensemble, en fait.
Vous prenez du plaisir à être sur scène?
Bah oui, on tourne, ouais, ouais. Ouais, moi j'adore, je peux pas imaginer enregistrer sans faire de scène et vice versa d'ailleurs. Moi j'aime bien, c'est des rythmes de 2 ans, un peu plus, mais où je peux justement avoir 2 ans assez sédentaire où je travaille et puis 2 ans où on est en tournée tout le temps. Ouais.
C'est souvent le cas de faire une tournée avant de sortir un album ou...
La date de sortie d'un album, ça dépend de la maison de disque, en fait. Ce que je trouve logique, c'est de faire une tournée quand un album est fini. Ça me paraît normal, en fait. L'album, il est enregistré. Après, c'est normal de le jouer devant les gens, qu'ils soient sortis ou pas. Là, il se trouve que, comme j'ai changé de maison de disque, ça prend un peu plus de temps et il sort plus tard. Mais nous, on tourne quand même, quoi. Et puis, je pense que maintenant, le disque, c'est pas non plus l'élément essentiel et incontournable. Et voilà, les gens peuvent écouter les morceaux sur Internet, déjà.
Vous avez fait un concert ici à Prague il y a 3 ans. Est-ce que vous en avez un peu un souvenir? Est-ce que...
Ouais. J'avais vachement aimé. Mais après, c'est mélangé avec la tournée. Hein. Mais oui, c'était dans la même salle.
Et là, je crois que vous êtes baladé un petit peu dans Prague. Est-ce que vous avez quelques impressions de la ville?
Moi, j'adore Prague. C'est super beau. Après, il y a tellement de touristes. Il y a des gens qui vivent à Prague. Mais plus loin, quoi, je pense. Ouais. Non, c'est vachement touristique. C'est hallucinant. Mais c'est super beau, quoi. Mais c'est... en plus... c'est culturellement vachement riche, donc ça fait bizarre de voir tous ces magasins.
Et c'est sur ces propos du compositeur français Jan Tiersen que se termine le Fais événement en République tchèque. Notre programme en français se poursuit.
Panorama.
Panorama.
République tchèque. Alexis Rosenzweig.
Bonjour à toutes et à tous. Retour aujourd'hui sur l'affaire Kundera avec l'historien Adam Hradilek et le journaliste Peter Tchechniak, auteurs tous les deux de l'article publié au mois d'octobre 2008 qui a mis en cause l'écrivain Milan Kundera dans une affaire de dénonciation remontant au début des années 50. Un article paru dans l'hebdomadaire Respect et dont le retentissement, vous le savez, a dépassé les frontières tchèques et même les frontières européennes. Au cours de ses recherches menées à titre individuel, l'historien de l'Institut pour l'étude des régimes totalitaires, Adam Hradilek, avait retrouvé un procès-verbal de la police tchécoslovaque, procès-verbal dans lequel il était indiqué que Milan Kundera avait dénoncé la présence d'un intrus dans sa résidence universitaire de l'époque. L'intrus en question était un jeune déserteur tchèque, Miroslav Dvořáček, revenu de la République fédérale d'Allemagne, où il avait été formé par les services secrets occidentaux. Arrêté à Prague à la même date que celle indiquée sur le PV, il a passé 14 ans en prison et dans les mines d'uranium. Suite à la publication de l'article, Milan Kundera a démenti toute collaboration avec la police. Les réactions, en France notamment, ont été vives et très favorables à l'écrivain. Un an et demi après, nous avons donc rencontré les auteurs de cet article paru dans Respect et avons d'abord demandé à l'historien Adam Haradilek si, avec le recul, il estimait avoir fait correctement son travail.
Je pense que si c'était à refaire, je me comporterais probablement d'une manière très similaire. J'ai à l'époque décidé de contacter l'hebdomadaire tchèque le plus respecté, un magazine auquel je fais entièrement confiance. En collaboration avec Respect, donc, je me suis décidé à publier ce document, ce procès-verbal, qui est selon moi intéressant, pas seulement parce qu'il figure le nom de Milan Kundera, mais aussi parce qu'il revient sur le cas très intéressant du courageux Miroslav Dvořáček.
Contrairement à Adam Haradilek, le journaliste de Respect qui a co-signé l'article, Petr Třešňák, concède qu'il s'y prendrait un petit peu autrement si c'était à refaire aujourd'hui.
Parce que pour moi, c'était une expérience professionnelle intéressante. Je dis toujours depuis que dans l'histoire du journalisme tchèque, en tout cas dans l'histoire post-communiste, il n'y a pas d'article qui ait suscité de plus intenses débats contradictoires que celui-ci. Pour moi, il est assez surprenant que notre article ait tenu le coup et qu'il est toujours considéré comme un bon article. Si c'était à refaire, j'essaierais de faire les choses de manière à être plus à même de résister à la pression qui suit la publication. J'irai notamment en France, devant sa maison, et j'attendrai qu'il sorte son chien pour lui demander s'il a dénoncé Dvořáček. Il m'enverrait promener, mais au moins, je l'aurais fait.
Il avait en effet été reproché aux deux auteurs de l'article de ne pas avoir suffisamment essayé de contacter Milan Kundera, Kundera qui est cependant connu pour ne jamais parler aux médias. C'est Adam Haradilek qui a essayé par fax.
Je suis certain que Milan Kundera a reçu le fax que je lui ai envoyé un mois avant la publication de l'article. Plusieurs sources proches de Kundera m'ont assuré que c'était la seule manière de communiquer avec lui. Il a eu la possibilité de s'exprimer ou d'en parler, ce qu'il n'a pas fait et ce qui ne m'a pas surpris parce qu'il ne communiquait pas avec les médias depuis plus de 20 ans. Aller l'attendre devant chez lui ne me paraissait pas digne, autant pour lui que pour nous. À mon avis, il a eu l'opportunité de s'exprimer sur ce sujet avant et après la publication.
Z mého pohledu skutečně dostal možnost se k tomu vyjádřit jak před tím, tak i potom.
Když úplně souhlasím s tím, že ten náš pokus o kontakt.
Même si je suis d'accord que notre tentative de le contacter était suffisante, elle était néanmoins tout juste suffisante et il aurait peut-être fallu qu'elle soit amplement suffisante, mais il n'y avait plus de temps pour ça. Il y a aussi quelques autres choses plus techniques que je formulerai aujourd'hui différemment. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après la publication, plusieurs personnes, dont nous, ont essayé de trouver d'autres éléments. Mais les seules choses qui ont été trouvées après l'ont été par hasard. Ce qui prouve que cet article est complet dans la mesure du possible. Ce n'est pas la vérité complète, que nous ne connaissons toujours pas, mais il est complet en ce qui concerne les possibilités de la connaître.
Les réactions les plus hostiles à cet article sont venues de France, le pays d'adoption de Milan Kundera. Deux semaines après la publication, il y a également une lettre de soutien à l'écrivain, signée par plusieurs grands noms de la littérature mondiale, dont Orhan Pamuk, Gabriel Garcia Marquez ou encore Philippe Roth.
C'est un petit peu désopilant de voir à quel point il est facile pour des gens célèbres de signer quelque chose dont ils ne savent absolument rien, seulement parce que dans le texte figure le nom de Kundera et qu'il fait partie de la même corporation. Cela m'a déçu, mais ce sont des choses qui arrivent.
Un an et demi après, on n'en sait pas vraiment plus sur cette affaire Kundera, même s'il en est régulièrement question dans les médias tchèques. Adam Haradilek.
Jasně, tak ta kauza překvapivě i po roce a půl vlastně nadále běží.
C'est surprenant que cette affaire continue un an et demi après. Pratiquement chaque semaine, on en parle à la télévision, dans la presse. On en parle dans les débats sur le passé, sur l'Institut d'études des régimes totalitaires, sur son nouveau directeur. Le débat continue, même s'il n'y a pas de nouvelles informations sur l'affaire. Récemment, plusieurs historiens se sont cependant exprimés très favorablement sur notre article en remarquant que jusqu'à aujourd'hui, personne n'a réussi à réfuter les informations qu'il contenait. De notre côté, évidemment, les opposants à cet article persévèrent également, donc cette affaire va probablement continuer longtemps à faire parler d'elle.
Ta věc bude pravděpodobně žít ještě asi dlouho svým životem.
Et c'est sur ces paroles de l'historien Adam Hradilek que se termine ce panorama consacré à l'affaire Kundera un an et demi après la publication de cet article dans l'hebdomadaire Respect qui a fait beaucoup parler de lui. Merci à toutes et à tous de votre attention et de votre fidélité. Vous le savez, pour écouter cette émission ou une autre émission de la rédaction française de Radio Prague, rien de plus simple, c'est sur internet au www.radio.cz.
Et moi, d'ajouter que c'est effectivement tout pour aujourd'hui. Je vous dis au revoir. À demain. Nasledanou. Cestě je cesta plná za vlnou, plní se mořem.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz, at 1030 hours on 9880 kHz. At 1300 hours on 11600 kHz, at 1600 hours on 9740 kHz, at 1700 hours on 9740 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Central and Western Africa can tune in at 2130 hours UTC on 9410 kHz. In the Near East and Middle East, you can listen at 0900 hours UTC on 17650 kHz and at 0330 hours on 9445 kHz. You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio.